France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Dans quelques minutes, retour sur l'année 2020. Vous avez accepté un exercice impossible. Choisir chacun, chacune, un événement et un seul qui vous a profondément marqué ces 12 derniers mois. Et avant de découvrir vos choix, l'actualité de la semaine est pour commencer.
Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
C'était lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait donc lors de sa rencontre avec les citoyens de la Convention climat la tenue d'un référendum sur l'introduction d'une référence à l'environnement dans la Constitution française, à condition, vous l'entendiez évidemment, que la réforme soit adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative, Natacha ? Initiative surprenante au terme d'une année où le climat, les questions environnementales, celles du réchauffement climatique, ont été peu à peu éclipsées, évidemment, par la pandémie, au point même qu'on en a perdu de vue les enjeux les plus essentiels.
Je pense surtout que ce qui est un petit peu gênant, c'est d'abord bon, les volte-face d'Emmanuel Macron sur cette question-là, que tout le monde aura vu dans la mesure où le fameux sans-filtre est devenu presque un symbole de toute cette histoire de retournement de veste. Mais surtout, là, il y a quelque chose qui mêle à la fois les revirements donc sur la question environnementale et le problème d'Emmanuel Macron avec les réformes institutionnelles. C'est-à-dire que là aussi, ça fait plusieurs fois que des réformes institutionnelles sont promises et n'arrivent jamais. C'est un peu l'horizon, hein, les réformes institutionnelles de Macron. Or là, nous avons un problème. La Constitution, c'est ce qui dépasse le débat politique, c'est ce qui est censé rassembler par-delà les clivages et les oppositions. C'est ce sur quoi nous sommes d'accord, nos lois fondamentales. Mmh. Or, la façon dont Emmanuel Macron s'y prend pour proposer ce référendum après des atermoiements qui montraient à quel point il était réticent, donne l'impression qu'il va utiliser cette réforme institutionnelle dans un but politique. Je crois que ce n'est bon ni pour la Constitution, ni pour l'environnement. Nous savons que ce référendum risque fort de ne pas avoir lieu. En revanche...
Vous voulez dire avant 2022 ou...
Mais bien sûr, avant 2022. Nous savons aussi que la charte de l'environnement, qui date de 2004, est incluse dans le bloc de constitutionnalité et que donc il y a moyen de l'utiliser pour empêcher que des lois soient votées qui seraient contraires à la préservation de l'environnement.
Ce qu'a fait le Conseil constitutionnel d'ailleurs
bien
à propos des néonicotinoïdes il y a quelques semaines.
Exactement, et donc je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place des manœuvres politiciennes pour enquiquiner la droite sénatoriale.
Gilles Finkelstein.
Une assez profonde circonspection, en fait. À la fois sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan environnemental. Pour en rester sur le plan juridique par lequel Natacha a commencé, on ne sait pas si cette révision est vraiment utile. Natacha l'a dit et on l'avait vu avec Laurent Fabius la semaine dernière, la charte pour l'environnement a une valeur constitutionnelle désormais. Et donc on ne sait pas si cette révision a une utilité symbolique ou si elle a une vraie utilité juridique. C'est un débat qui doit avoir lieu. Circonscription parce qu'on ne sait pas si le référendum est justifié. Si la révision est nécessaire, est-ce que le référendum est justifié ? Et là, je peut-être me distingue de ce que dit Natacha. La Constitution, in fine, c'est ce qui doit rassembler, mais un référendum, c'est fait plutôt pour trancher une question qui divise l'opinion.
Mais là, ça divise pas l'opinion.
C'est ce que je vous dis. Lorsque De Gaulle fait un référendum sur l'Algérie, lorsque Mitterrand fait un référendum sur la monnaie unique, lorsque Chirac fait un référendum sur le traité constitutionnel européen, c'est des questions qui divisent l'opinion. Là, on a un peu le sentiment d'être face à une offre sicilienne, une question à laquelle on ne peut pas dire non. Et donc, c'est un peu gênant. Et enfin, circonspection, parce que Natacha l'a évoqué aussi, les conditions pour que ce référendum puisse avoir lieu sont assez incertaines. Le référendum, c'est ce qui arrive à la fin. Au début, il faut qu'il y ait un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le même texte. J'utilisais souvent la formule d'un vieux député, Édouard Frédéric Dupont, député du 7e, qui disait « Je serai député jusqu'à ma mort et après j'irai au Sénat ». En fait, je ne l'utilise plus que le Sénat a un vrai rôle dans nos institutions. C'est une chambre d'équilibre, c'est une chambre souvent de compétences, mais c'est surtout une chambre d'opposition. Et donc, on voit bien les différents registres que le Sénat peut et va sans doute mobiliser pour que ce référendum n'ait pas lieu. C'est inutile, c'est inopportun, c'est insuffisant. Et donc, on a un peu le sentiment d'être dans un théâtre.
Donc, manœuvre politique et manœuvre politique inutile pour vous, Natacha. Le problème des référendums, c'est que les citoyens ne votent jamais ou quasiment jamais. C'est un adage sur la question qu'on leur a posée.
Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai pas le sentiment qu'en 2005, les citoyens aient voté sur autre chose que la question qui leur était posée, ni même d'ailleurs en 92 sur Maastricht. Je pense que, au contraire, beaucoup de citoyens votent pour ça. Il y en a d'autres qui, évidemment, votent pour ou contre le pouvoir. Mais justement, le but d'Emmanuel Macron, et Gilles l'a dessiné, c'est non seulement d'enquiquiner la droite sénatoriale, mais d'enquiquiner l'ensemble de l'opposition, puisque, en effet, c'est une question à laquelle on ne peut pas dire non. Qui serait pour l'environnement? Qui serait contre l'environnement? Qui serait contre le fait de protéger la planète, nos enfants, etc.? Donc ceux qui seront contre, c'est ceux qui seront des méchants, qui ne mettront pas en avant les intérêts de la planète. Alors Emmanuel Macron, lui, pourrait apparaître dans ce cas-là comme celui qui aura été plébiscité. Il y a là un piège.
Encore un mot, Gilles.
Oui, encore un mot. C'est une opération qui peut paraître habile et qui, d'une certaine manière, l'est. Emmanuel Macron a surpris tout le monde, même s'il avait déjà dit en juin qu'il était favorable à ce référendum. C'est une habileté parce que on voit à court terme qu'il met la droite dans l'embarras et qu'il divise la gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon a déjà dit non et que Yannick Jadot a déjà dit oui, et que à moyen terme, ça peut paraître habile parce que soit le référendum n'a pas lieu parce que le Sénat s'y oppose et en porte la responsabilité, soit il a lieu et pour les raisons qu'on a évoquées, c'est un référendum qui est gagné par Emmanuel Macron. Mais je crains pour lui que ce ne soit qu'une demi-habileté, au sens où ça peut apparaître comme un paravent pour masquer les reculs pour le reste sur l'environnement, et que surtout, et je pense que c'est ça le principal risque pour Emmanuel Macron, c'est qu'il finisse par donner l'impression d'adapter son discours aux interlocuteurs devant lesquels il est.
Ce serait nouveau, Gilles. Personne ne l'a jamais remarqué.
Eh bien, ça peut finir par se voir.
Mais il faut imaginer donc Emmanuel Macron en lecteur de Pascal. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
On n'appellera jamais au boycott. L'Europe est un continent qui est un continent, qui est ouvert et qui accueille. Mais l'Europe sera le premier continent de la planète qui va se doter de règles extrêmement claires pour protéger ce qui est important pour nous, mais aussi pour éviter les abus de position dominante.
C'était Thierry Breton, commissaire européen sur France Inter mardi, commissaire européen en charge notamment de l'économie, du marché intérieur et du numérique. Et l'Union européenne présentait mardi de nouveaux outils pour contrôler les plateformes Internet, les Digital Service Act, comme on dit, DSA, Digital Market Act, DMA, puisque à l'Union européenne, on adore les acronymes. En tout cas, ce sont deux règlements qui visent à rebattre les cartes entre Bruxelles, entre les États membres et les GAFA. C'est l'éternel retour d'une question qui s'impose dans le monde digital. Gilles Finkelstein, est-ce que cette fois-ci, on arrivera enfin à tordre le bras, sinon à tordre le bras aux GAFA, en tout cas à les amener à des pratiques plus citoyennes, si on peut dire, éthiques?
On peut espérer que ce soit un tournant. Un tournant pour le numérique. La législation européenne était une législation qui était datée, qui était inadaptée, qui était inopérante, mais un tournant, une révolution au-delà du numérique. Ça fait des mois que nous disons souvent ici que l'Union européenne est trop tournée sur elle-même. Là, c'est une Union européenne qui se pense par rapport au reste du monde. On a souvent dit que l'Union européenne était trop libérale. Là, elle est aussi plus régulatrice, et y compris ce sont les libéraux, Thierry Breton, Margrethe Vestager, qui portent cette législation. Je crois que c'est un texte, ce sont des textes, puisqu'il y en a deux, qui sont ambitieux, qui ciblent clairement les adversaires. Pas seulement les GAFA, mais d'abord les GAFA, dont le champ est vaste, puisque c'est à la fois la partie concurrence, mais aussi la partie contenu, avec des contraintes qui sont des contraintes très fortes et des sanctions qui sont des sanctions très lourdes.
Et il n'y a pas que les GAFA, je le dis juste rapidement, mais les GAFAM d'abord faudrait-il, puisqu'il y a Microsoft, et puis il y a des sociétés chinoises, Alibaba pour la plus connue, TikTok, et puis Booking par exemple, ce site très connu de réservation hôtelière en ligne.
Oui, alors je termine juste d'un mot, ça peut être un tournant, mais on n'en est qu'au début, et la bataille va être très rude. Elle va être très rude sur le contenu avec les GAFA. On avait vu en 2018-2019 le lobbying absolument fou qui avait été mené par les GAFA au Parlement européen sur la législation sur le droit d'auteur. Je pense que là, ça va être démultiplié. Ça va être dur à l'intérieur de l'Union européenne parce que les États membres, notamment les pays du Nord, sont moins régulateurs, plus redistributeurs, mais moins régulateurs. Et ça va être dur
aussi... Et l'Allemagne elle-même, d'ailleurs, ne veut pas trop taxer les GAFA pour continuer à vendre des Mercedes sans être trop taxés aux États-Unis. Natacha Polony.
Alors, je dirais qu'on ne va pas bouder son plaisir, en effet, même si ce n'est qu'un premier pas, dont les effets ne se verront qu'à partir de 2022, puisqu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que réellement se mettront en place les outils qui permettront de contrôler véritablement. C'est une avancée essentielle, notamment sur un point, c'est la question de la concurrence. Parce que, en fait, on a l'impression, et tant mieux, que la Commission européenne et l'Union européenne dans son ensemble a enfin compris la différence entre libéralisme et néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, qui est un système à la fois de dérégulation, d'utilisation de la dette, etc., aboutit à des monopoles absolus grâce au système d'optimisation fiscale dont ces monopoles ont bénéficié. Ce sont les GAFAM. Or, c'est le contraire du véritable libéralisme. Et cette situation de monopole leur a permis jusqu'à présent de racheter systématiquement les petites entreprises du numérique qui pouvaient naître en Europe et qui commençaient à inventer quelque chose,
en
à
Europe
valoir quelque chose. Oui, bien sûr, mais l'Europe jusqu'à présent ne protégeait absolument pas ces petites entreprises et les laissait toutes filer. Or, cet outil va permettre de les protéger. J'ajoute que Gilles disait l'Europe sert à cela contre les États. C'est-à-dire que non, nous découvrons que l'Europe peut désormais servir à quelque chose parce qu'elle a compris ce qu'étaient les rapports de force et qu'elle a compris, en partie, qu'il y a un intérêt des citoyens européens à protéger. Dans ce cas-là, l'Europe sert à quelque chose. La question est de savoir jusqu'à présent à quoi elle servait avec une autre conception de l'Europe. Donc réjouissons-nous en effet que Margrethe Vestager, qui n'est pas une...
Comment dire commissaire européenne à la concurrence.
Voilà, et qui n'a pas changé sur absolument tout et qui continue à croire que la concurrence, ça vaut aussi à l'intérieur de l'Europe et pas à l'extérieur. Mais bon, Margrethe Vestager, Thierry Breton font du bon travail. Réjouissons-nous, c'est nouveau.
Deux micro-remarques sur ce que vient de dire Natacha. Ouais. Il y a un changement de logique sur la concurrence. Ça s'explique, ça se traduit comment ? C'est que là où il y avait des contrôles qui se faisaient a posteriori, là, le contrôle se fait a priori. Quand il y a une volonté de rachat d'une entreprise européenne, il doit y avoir une notification avant et non pas une enquête après, et ça change beaucoup de choses. Et dernière remarque, Natacha disait on ne verra les effets qu'en 2022. C'est un enjeu du combat qui est devant nous, c'est de savoir quand cela va être en application. Les GAFAM et tous ceux qui sont opposés vont lutter pour que ça aille le plus lentement possible. Il y a un État, un pays qui a un intérêt particulier à ce que ça ait lieu en 2022, c'est le président de la République française, parce que ça a échappé encore à beaucoup de gens, mais la France exercera la présidence de l'Union européenne au premier semestre de l'année 2022, c'est-à-dire en plein cœur de l'élection présidentielle. Et on peut imaginer qu'Emmanuel Macron ne serait pas chagriné de réussir à conclure cet accord sur le numérique pendant la campagne présidentielle.
Merci en tout cas de nous avoir ouvert les yeux et de nous avoir indiqué ce rendez-vous. C'est donc en 2022, mais pour l'heure dans le grand face-à-face, place à la rétrospective.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
Je le disais les amis, un exercice impossible, mais vous en avez accepté le principe, choisir un événement de l'année 2020, une année évidemment extrêmement riche. On va commencer avec vous, Gilles.
And it's easier for a whole lot of people. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happy to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. It's vindication for a lot of people. who have really suffered.
Gilles, vous avez retenu l'élection présidentielle américaine. C'était la voix d'un commentateur politique de la chaîne CNN, Anthony Cappell-Jones, qui, à l'annonce de l'élection de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris, a fondu en larmes, en direct, à l'antenne. Une scène qui est devenue virale et qui a fait le tour du monde. Une émotion extrêmement forte. Pourquoi avoir eu envie de réécouter, de revenir sur ce moment particulier?
Ce moment parce qu'il était fort et... au-delà de ce moment, cette élection, parce que je crois que c'est un assez bon symbole de la période et de ce sentiment que l'on a sur beaucoup de sujets d'être à un moment de bascule. Ce qui s'est passé et la force de la réaction que l'on vient d'entendre en témoigne, c'est à la fois le symbole d'un soulagement absolument considérable que celle de la victoire de Joe Biden et davantage encore de la défaite de Donald Trump, qui a été longue à se dessiner, même si on l'a aussi oublié, même il y a quand même 7 millions de voix d'écart entre l'un et l'autre, mais on mesure avec cette réaction ce qu'a été la charge mentale des Afro-Américains, des Américains, de beaucoup d'Américains et du monde pendant la présidence de Donald Trump. Et en même temps, c'est le symbole d'une inquiétude. On est aussi à un moment où on se demande si les choses vont tenir, si Donald Trump va finir par accepter sa défaite. Et donc, c'est ce moment de bascule que j'ai voulu retenir.
Et quant à vous, l'événement en Natacha sur lequel vous vouliez revenir, évidemment.
Je trouve qu'il ne faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils ne méritent pas ça. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre. Pas qu'ils gagnent. Sinon, eux, ils vont gagner. Sinon, les terroristes, eux, ils vont gagner. Ils vont dire, voilà, on les a tués et eux maintenant, ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher.
Pape Biram, qui est collégien dans l'établissement où enseignait Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, et il rendait donc hommage au professeur décapité vendredi 16 octobre pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, Natacha.
Oui, nous aurions pu, Gilles et moi, choisir le coronavirus dans la rétrospective de l'année, mais dans la mesure où il y a de fortes chances que nous en reparlions encore en 2021, il m'a semblé qu'il était plus important de rappeler ceci. En 2020, un professeur a été décapité en France pour avoir fait un cours. Et je pense qu'il est important que ça ne devienne pas simplement un souvenir. Moi, j'ai... dans le crâne, le fait que nous vivons dans un pays où Cabu, Charb, Tignous ont été massacrés à la Kalachnikov parce que tout simplement, ils pensaient qu'on peut se moquer des religions. Et nous vivons dans un monde où la sécularisation des sociétés recule. Et je pense que c'est profondément inquiétant. Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, la question de l'islam politique et de la façon dont il s'impose dans toute une partie du monde. Aux États-Unis, les évangéliques sont tout aussi furieux et aussi intolérants. Les juifs orthodoxes qui tiennent une partie de Jérusalem font pression en permanence. Mais il est vrai qu'actuellement, et en particulier en France, l'islamisme a un rôle particulier. Et je pense que nous devons avoir en tête que le rôle de l'école est de continuer à enseigner ce qui va émanciper, libérer. Or, si nous oublions ce fait majeur, eh bien, des professeurs vont s'auto-censurer, ce qu'ils font déjà un peu partout. C'est-à-dire que le résultat, de même que le résultat de la mort de Charb, Cabu, Tignous, c'est que des dessinateurs ne dessinent plus Mahomet, eh bien, le résultat de la décapitation de Samuel Paty risque d'être que certains professeurs cesseront de choquer ou de risquer de choquer leurs élèves en leur présentant ce qui est le règne de la raison, c'est-à-dire un des éléments fondamentaux de ce qui fait la façon française d'organiser la société.